remercier d'une part les responsables du laboratoire junior parce que c'était pour l'organisation de cette journée d'études et pour tous les séminaires que vous faites, et également aux deux membres du laboratoire qui ont organisé la journée d'études. Et c'est vraiment un plaisir de se rencontrer ici tout ensemble, bon, déjà depuis hier soir, pouvoir partager ce moment convivial entre nous, en présentiel et en ligne. Et donc, sur ça, je vais commencer. Je vais travailler sur une bande dessinée que je vais faire circuler. Si jamais vous voulez voir l'intégralité de l'ouvrage. Donc, une photographie familiale se trouve à la frontière de la mémoire individuelle et de l'histoire. Et comme l'indique Roland Barthes dans La Chambre claire, la photographie est la preuve d'un « ça a été », voire éventuellement l'annonce d'un « j'ai été », « qui était ». Mais qui est ce « je » et où se situe-t-il ? Si la photographie est virtuellement une énonciation, elle peut néanmoins rester silencieuse, faute de poser les bonnes questions. Par conséquent, le silence pourrait potentiellement contribuer à l'oubli. Cependant, comme nous le rappelle Alain Corbin dans l'histoire du silence, le silence peut être également une invitation à se souvenir. Ce paradoxe d'un objet silencieusement parlant qui invite à se souvenir constitue, à mon avis, le cœur du récit de Regreso al Edén de Paco Roca. Dans cette bande dessinée, l'auteur espagnol interroge une photographie familiale que vous voyez à droite, et que sa mère a toujours gardé auprès d'elle. L'auteur essaye de faire parler cette photographie muette afin de retracer la mémoire familiale et donner une voix aux Espagnols humbles de l'après-guerre. Cependant, pour ce faire, il ne prête pas sa voix au narrateur et il ne s'exprime pas à la première personne, mais il laisse le narrateur interroger le document visuel depuis une perspective externe, extérieure à la famille. Ceci crée un effet plus réaliste et objectif. Et d'autant plus que l'auteur s'auto-représente dans la bande dessinée. Donc, on le voit en bas à droite, vous l'avez dans cette bande dessinée, et vous avez d'autres deux exemples dans d'autres deux ouvrages de l'auteur. Et par contre, l'auteur ne prend pas la parole une seule fois dans cette bande dessinée, ce qui contraste avec les autres. Ce paradoxe d'un objet silencieusement parlant trouve des échos dans l'esthétique bellistique de ces récits, caractérisés entre autres par la domination des récitatifs sur les bulles, l'abondance des cases muettes ou l'emploi des saplois noirs comme l'illustration simultanée et ambivalente du tout et du néant, du bruit et du silence. Par ailleurs, les thématiques abordées, voire simplement suggérées ou sous-entendues, contribuent également à jouer avec les différentes nuances du silence. Or, il faut se garder de définir le silence simplement comme absence, puisqu'il ne s'agit que de l'absence de bruit. Le silence abrite potentiellement d'autres formes d'expression. Ainsi, dans cette bande dessinée, nous trouvons des silences servant à établir la présence graphique du personnage, à le faire sortir de l'oubli et à exprimer son existence sans pour autant lui donner la parole. C'est le cas qu'on a en bas, où on voit Carmen, âgée, qui ne prend pas la parole, et on va avoir de manière récurrente cette image. Les dessins expriment ainsi leur présence et avancent une vie passée sous silence. Les cas contraires sont également vrais. Il y a des absences qui servent à briser le silence. Par exemple, lorsqu'Antonia regarde le vide laissé par un immeuble voisin détruit, cette absence l'invite à se souvenir et à raconter l'épisode du bombardement vécu pendant la guerre. Il en voit ici l'absence du bâtiment et à partir de là, il construit toute sa réflexion à « Y cayó la bomba ». Et on a un saut dans le passé. Dans l'histoire du silence de Corbin, on lit, et je cite, « Le silence est une présence dans l'air. Le silence ne se voit pas, écrit Max Picard, et cependant, il est manifestement là. Il s'étend tout au loin, et cependant, il est près de vous, si près que vous le sentez comme votre propre corps. » La question que je me pose est donc comment représenter ces silences en tant que présence dans l'air, mais absence de bruit. Pour sa part, et cet historien donne de multiples exemples d'opérations romanesques, des descriptions du silence. Donc, on a un silence qui peut être profond, obscur, dense. Il est donc décrit avec des mots, lesquels, lorsqu'on fait une lecture personnelle, rompent le silence de notre esprit. On répète intérieurement le passage, on l'entend intérieurement. Cependant, la bande dessinée n'est pas uniquement expression textuelle, et elle peut par conséquent illustrer graphiquement le silence. Lui laisser la place d'exister et d'y être. On peut aussi apprécier le silence d'une case, d'une planche ou d'un passage entier. Grâce donc à l'esthétique propre à cette bande dessinée et à son traitement de la photographie, et je me demande si c'est possible d'apporter un regard renouvelé de l'Espagne de l'après-guerre, à mi-chemin entre le récit intime et l'histoire, entre le dessin et le texte, et entre la parole et le silence. Et pour réfléchir à cette question, j'aimerais aborder trois nuances de silence que j'ai choisies, alors qu'on pourrait en faire beaucoup plus, mais on n'a pas le temps aujourd'hui. Donc, je vais présenter trois nuances de silence afin de retrouver les stratégies esthétiques qui y sont mobilisées. Je vais commencer par la première nuance de silence que j'ai appelée le silence traumatique du conflit, du vécu pendant la guerre et l'après-guerre, à l'effacement de toute idéologie politique. Et je fais juste un petit parenthèse pour dire que je n'ai pas fait une feuille de citation graphique pour vous, mais que si jamais quelqu'un voulait le diaporama, il est disponible pour vous. Et je pourrais préciser après les pages. Donc, et dans cette première partie, la première chose que j'aimerais mentionner, c'est que la guerre n'est mentionnée par aucun personnage. Cependant, le contexte de l'après-guerre espagnole et du conflit international de la Deuxième Guerre mondiale sont mentionnés et expliqués par le narrateur dans des récitatifs non encadrés et flottant au-dessus des dessins qu'on voit dans les premières cases en haut. De même, la participation des hommes de la famille est mentionnée uniquement pour illustrer leur silence à travers une métaphore graphique qu'on voit ici en bas, un coffre fermé où se cache Paco qui est habillé en soldat. La boîte ou le coffre symbolise ce passé refoulé dont on ne veut pas parler, comme l'indique également l'expression du personnage avec les yeux et la bouche fermés. Ces passés mis sous silence et incompris par Antonia, que je rappelle, c'est la mère du personnage et on a un point de vue donc de l'histoire depuis aussi l'enfant. Et donc, ces passés qui est incompris par le personnage d'Antonia, la honte dans ses rêveries d'enfant, sa mère étant sa plus grande confidente, elle lui demande naïvement si les membres de sa famille sont des rouges. Et maintenant, on va examiner de plus près et le traitement de ces mots. Dans un premier temps, il est utilisé comme insulte et il apparaît en rouge. Une couleur qui déteint sur le personnage d'Antonia, qu'on voit ici, figurant en rouge dans les cases d'après. Ensuite, on va voir tous les sentiments de honte, de doute et de pesanteur qu'Antonia ressent et qui sont illustrés ici par cette couleur. Mais cette couleur disparaît quand elle brise le silence et pose la question à sa mère. Nosotros somos. Explication où transparaît clairement le discours. Carmen lui impose fermement le silence. Et on lit ici, « Il nunca más hables de eso, mira que si te oye alguien. » Contrairement au personnage, le narrateur rompt le silence pour expliquer comment le franquisme s'est servi du langage, et surtout du terme « rojo » comme une arme de répression. D'autre part, les conséquences de la pauvreté pendant l'après-guerre ne sont pas non plus évoquées par les personnages, mais expliquées clairement par le narrateur, comme c'était le cas du marché noir ou comme c'était le cas d'avoir un petit appartement à Valence et vivre à Neuf. Aussi, par exemple, la séparation de la famille est illustrée par le narrateur, ou plutôt ici par le monstrateur, par un blanc entre les deux cases. En outre, notre conséquence du nouveau système politique espagnol à l'époque est sous-entendue dans les passages montrant les différentes croyances et superstitions de la culture populaire des femmes, comme Antonia et Carmen, mère et fille. Par exemple, ces derniers croient que les étoiles filantes sont les vraies larmes de Saint-Laurent, que l'on marie l'homme dont le prénom est le premier à flotter dans un verre d'eau, ou que les affaires l'ont rangé le soir, disparaissent pendant la nuit. C'est à travers cette vision fantastique du monde que l'on se rend compte de l'absence de scolarisation des femmes. Ceci sera enfin montré clairement quand Antonia refusera d'apprendre à lire et à écrire, suite à l'intimidation du père, et qu'elle décidera donc de vivre dans un état silencieux de frustration. Et je passe ainsi à la deuxième nuance de silence, que j'ai nommée le mutisme de la femme en tant qu'élément secondaire dans la société. Et ainsi, on peut constater que la femme reste muette parce qu'elle n'est que secondaire ou elle ne se présente que comme secondaire dans la société. Alors qu'on verra par la suite que l'homme se doit d'être silencieux pour le cas contraire, parce qu'il est un pilier central et symbolise la forteresse. Ce mutisme chez la femme est présenté à travers plusieurs personnages. On va commencer par le cas de la grand-sœur, donc on l'a ici au milieu, on va commencer par le cas de Vicentita. Ce personnage apparaît uniquement au début du récit, pour ensuite disparaître. Elle apparaît donc 23 fois Donc, elle apparaît 23 fois, dans 23 cases distinctes. Cependant, elle ne parle que deux fois. Une fois pour demander une copie de la photographie et une deuxième fois pour dire le prénom de son futur enfant. Cependant, ce n'est pas le cas de son mari qui va apparaître dans beaucoup moins de cases et pourtant, il va toujours prendre la parole. Cependant, c'est que le personnage T est exprimé par le narrateur dans des récitatifs ou révélé par la monstration. Par exemple, le narrateur explique dans des récitatifs comment la chambre que Vicente et son mari partageaient avec chez sa famille devenait de plus en plus petite. Le blanc intervignettal est supprimé entre les lignes, entre les cases. Les personnages occupent de plus en plus d'espace dans la case, mais comme s'ils se trouvaient à l'étroit dans cette dernière. Texte et images montrent le même fait. Non moins, quelques pages plus tard, contrairement au cas précédent, la monstration n'illustre pas ce que le narrateur exprime. En effet, à gauche, on voit le narrateur, j'ai enlevé cette partie, mais le narrateur évoque le manque de joie et de dignité dans la vie de ses couples. Et le dessin montre une possible conséquence. Une demi-poche foncée en dessus l'œil gauche du personnage. Cependant, là, tout est semé. A-t-elle des cernes parce qu'elle ne veut pas dormir à cause de ses enfants? Ou, eh bien, cette poche est-elle un cocard, signe de la violence conjugale? Le silence de la case nous interroge et nous invite à tirer nos propres conclusions. Ensuite, on va voir encore la même image et on saura que le personnage d'Antonia n'aimait pas le mari de sa sœur, mais on n'aura pas d'éléments supplémentaires. On doit tirer nos propres conclusions. Or, ceci, ce n'est pas le seul exemple de brutalité étouffée, puisque la violence contre la femme est profondément présente dans cette bande dessinée. En Paris, qu'on va trouver ici, qui est l'autre sœur d'Antonia, est marginalisée suite à une grossesse en dehors du mariage. Carmen, la mère, est frappée par son mari et Antonia est empêchée d'apprendre parce qu'elle doit servir les soins de sa famille. Donc, on va examiner maintenant les stratégies esthétiques à l'œuvre dans ces différents cas. Donc, Amparin est le troisième enfant de la famille de Carmen et Vicente. Et elle a omis de dire qu'elle était enceinte parce que le père de l'enfant était marié et ne voulait pas s'en occuper. Dans cette bande dessinée, Amparin n'est pas un personnage muet comme l'était Vicentita. Et c'est pour ça que son silence ponctuel est un aspect crucial du récit. Alors que le reste des personnages ne sait pas qu'elle est enceinte, le lecteur, par contre, est au courant. Pour deux raisons. Premièrement, parce que le narrateur va le dire dans son récitatif. Et en second lieu, parce qu'on va le lire, on va lire la phrase Estoy embarazada, qui apparaît dans son bulle sans appendix à l'intérieur du personnage. La typographie de la phrase n'est pas seulement plus épaisse, mais les lettres sont enchevêtrées et collées entre elles, montrant l'impossibilité de les avaler. Quand finalement elle rompt le silence, la phrase est exprimée dans une bulle dans le minuscule appendix, sort directement de sa bouche, peut-être pour souligner qu'elle est enfin décidée à parler. Les lettres, même si elles sont plus aérées, restent tout aussi lourdes. Et ces stratégies à mi-chemin entre la bulle des pensées et la bulle des dialogues illustrent cette impossibilité d'exprimer non pas une pensée, mais une affirmation ou constatation. Et peu après, on découvre avec grande surprise que le temps est passé et que son enfant est décédé. Et par contre, elle décide de ne plus parler de l'existence de cet enfant. Y no menciones nada de la niña, nunca vuelvas a hablar de ella, no ha existido. Donc, on ne parle pas, comme elle ne parle pas d'une personne, on a l'impression qu'elle efface et elle efface son existence. Et quand elle finit par rencontrer quelqu'un, elle va quitter la maison familiale et son père ne lui adressera plus la parole. Il avait déjà décidé de ne plus l'adresser la parole depuis qu'elle était tombée enceinte et quand elle part, ils ne sont toujours pas dans de bons termes. Cependant, le silence du père n'est pas total, mais rompu par les coups qu'il donne à sa femme. Ces passages sans narrateur sont bruités uniquement par la répétition de l'onomatopée « place » qui rend le son de coups de Vicente que Vicente donne à Amparin. Amparin, à Antonia et à sa femme. On verra après que suite à l'absence de la mère et quand ses sœurs sont parties, Antonia doit s'occuper de toutes les tâches du foyer pour mettre fin à son illettrisme en même temps qu'elle fait des cours, qu'on l'enseigne le métier de couturière, sa professeure lui apprend à écrire et à lire. Malheureusement, ses efforts ne durent pas longtemps, puisque d'un ton colérique et menaçant, son père lui rappelle quelles sont ses obligations auprès de la famille en tant que femme. Sa réaction est muette, elle prépare le dîner en silence et noie ses frustrations dans des larmes. Sur ces deux pages qu'on voit ici, Antonia reste muette, mais à l'intérieur d'elle gronde un sentiment de frustration symbolisé par la métaphore graphique du volcan en éruption. Dans un premier temps, le volcan est au centre de la planche, en pleine éruption, dans son couleur rouge qui imprègne toute la poitrine du personnage. Et la métaphore graphique va de pair avec le geste décollé exprimé par les sourcils français d'Antonia. Puis, ses larmes noient les feux du volcan dans une petite case, jusqu'à que dans la case suivante, on n'est que le volcan des sentiments, mais noyé en gros plan. Donc, on avait déjà trouvé cette métaphore au début, mais le volcan n'était pas en explosion, et à la fin, on voit que le volcan est presque inexistant. Donc, on a vu qu'Antonia ne communique pas vraiment réellement avec d'autres personnages, à l'exception de sa mère et sa sœur, mais elle va s'exprimer pas par la voix, mais par ses métaphores graphiques. Et je passe maintenant à la troisième partie que je vais faire rapidement, et désolée pour le temps, et donc que j'ai appelé l'homme taiseux ou les symboles de la forteresse impassible au sein de la famille. Et on va travailler ces silences à partir de la figure du père qui est montrée, et le silence du père est montré ici comme la conséquence de trois facteurs, l'égoïsme, la rage et le mépris. Lorsque le narrateur mentionne la faim qu'Antonia et sa famille avaient endurée, on a ensuite un passage où le père mange des escargots en cachette sur les manches de l'escalier, en silence. La séquence occupe un total de 4 pages, dont 3 sont presque muettes. D'un point de vue graphique, les dessins opposent aussi la surprise muette d'Antonia en le découvrant et l'égoïsme du père dévorant son repas en silence et en solitude. Malgré le mutisme du père en train de se régaler, la succession des plans de plus en plus gros qu'on voit ici, on vide les lecteurs par un effet de répétition à entendre Vicente aspirer les escargots et se lécher les doigts. Ensuite, c'est grâce au récitatif qu'un nouveau contraste est créé, celui du père qui est égoïste alors que sa fille va savoir honorer l'obligation en tant que fille et s'occuper du père jusqu'à sa mort. Néanmoins, le mutisme égoïste du père n'est pas ici montré comme le pire, puisque le pire, selon la petite fille, c'est la rage et la brutalité contenue. En effet, Vicente combat la situation qui lui déplaise avec un silence menaçant. Par exemple, nous avons vu que lorsqu'un Paling était tombé enceinte, il avait décidé de ne plus lui adresser la parole. Cet état de silence s'exprime du point de vue de l'histoire et au niveau de la construction des séquences. Pour illustrer, on va regarder ces deux pages. Ce sont les pages où sa femme lui annonce que leur fille est enceinte, raison pour laquelle il commence à frapper sa femme, mais il ne prononce pas un seul mot. On pourrait penser qu'il reste muet parce qu'il ne veut pas parler à sa fille qui était présente. Cependant, sous la page d'après, on voit que la page est divisée en 2 niveaux. Et on voit Vicente qui est au travail, et pourtant, quand on s'adresse à lui, il ne répond pas. On a l'impression que lorsque sa fille partage la même page que son père, celui-ci refuse de parler, ce qui souligne son mutisme. Cette stratégie se confirme dans le reste des pages du récit, puisqu'au départ, la jeune femme avait... Puisque ici, on voit que lorsque la jeune femme part avec son mari, c'est là où le père va prendre la parole, et cette parole, qui est une bulle des dialogues, mais qu'on pourrait penser que c'est une bulle des pensées, va faire la transition entre l'un et l'autre. Et ici, on va constater, enfin, que lorsque Vicente décide de s'exprimer, il est emporté par la rage et la brutalité contre sa femme et sa fille. Et c'est également le cas, donc, quand il va aller voir son frère, qui est son chef, il va partager ses angoisses. Il va être soumis d'abord au mutisme de son frère et après au mépris. Il s'agit donc d'un personnage qui n'arrive pas à prendre la parole et qui n'arrive surtout pas à s'exprimer par des métaphores graphiques, mais qui s'exprime uniquement par la violence. Donc, je vais faire une petite conclusion. Donc, nous avons analysé comment se déploie le mutisme d'un différent personnage dans cette bande dessinée. Et entre autres, on a pu distinguer des métaphores graphiques, des sentiments ravalés. On a également vu la déformation typographique des mots à force de les avoir gardés, d'avoir gardé le silence, et la composition de la page autour d'un silence menaçant ou la rareté des onomatopées, éléments bédéistiques par excellence. Dans le même temps, on a constaté que ce silence, propre au personnage et intrinsèque au statut de la photographie, est brisé, entre autres, par la constante prise de parole du narrateur. Il s'agit d'une parole qui flotte dans le fond blanc de la page ou qui apparaît en forme de récitatif non encadré. Cette voix dit ce que les personnages ne veulent pas dire ou n'arrivent pas à exprimer, les contextes dans lesquels ils vivent, leurs sentiments, leurs frustrations, leur idéologie, leur passé. Ce rôle du narrateur, comme récitant, est d'autant plus puissant qu'il prend même la parole quand le personnage apparaît dans la vignette, et c'est le narrateur qui parle et non pas le personnage. Il s'exprime à leur place, il exprime ce qu'il teste. Ce choix esthétique est totalement contraire à celui utilisé dans les restes des bandes dessinées que cet auteur a écrites. Et par ailleurs, cette bande dessinée utilise abondamment des pages muettes avec des aplats noirs qui font écho à l'ensemble des pages que je pense que vous avez vues. Donc au début, il y aura juste des pages noires avec des petites réflexions en blanc jusqu'à qu'on arrive à voir des néants d'existence et après les premières pages de la BD. Donc tous ces noirs m'a fait également réfléchir à l'idée des absences-abondances. Et ici, je vais citer Gilles Deleuze qui disait « C'est une erreur de croire que le peintre est devant une surface blanche. Tout cela est présent sur la toile à titre d'image actuelle ou virtuelle. Si bien que le peintre n'a pas rempli une surface blanche, il aurait plutôt à vider, décombrer, nettoyer. » Fin de la citation. Donc, on a l'impression que la page devant laquelle le peintre doit s'exprimer elle est noire et il faut d'abord tout vider. Les premières pages permettent également donc dans cette bande dessinée, d'accéder au travail de ces dessinateurs avant de commencer son œuvre. L'ensemble des figures imaginées, des souvenirs écoutés et des questions posées à ces photographies. Petit à petit, on va quitter le noir, on va être guidé par la voix du narrateur et par la monstration, et on va avoir accès à l'histoire. Et à la fin, une stratégie similaire mais inversée a été utilisée en silence. Donc, on va voir Antonia qui quitte le récit. Donc, avec un personnage de l'imaginaire de son enfance, il va quitter les récits petit à petit et les pages noires, ça va se succéder. Là, on le voit plus petit, parce qu'on la voit à peine. Et après ça, c'est fini. Donc, finalement, si on reprend la citation que j'avais utilisée tout au début, refuser d'entendre et de voir l'autre, l'empêcher de laisser une trace, c'est le condamner à une forme de non-être. On voit ici que Antonia, pourtant, a laissé une trace muette, sans voix. Cette photographie dont l'auteur Roca se sert pour le faire sortir de silence. Merci beaucoup.
Bonjour. Alors, ce n'est pas tellement une question, plutôt une remarque pour un peu briser la glace, ouvrir le débat. J'ai trouvé très, très intéressant dans la première intervention, notamment, Patricia, la différence que tu as faite entre mutisme et silence. Et effectivement, il y a plusieurs planches, bon, je n'ai pas le bon vocabulaire, plusieurs planches ou plusieurs vignettes, Où il y a le silence dans le sens où il n'y a pas de dialogue, mais il y a des bruits qui sont représentés.
J'entends pas très bien en fait.
Donc plusieurs vignettes où il n'y a pas de dialogue, donc le silence des personnages, mais les bruits qui sont vraiment présents, qui sont représentés par les onomatopées, ou alors dans cette scène du père qui mange sur les escaliers, aucun bruit, aucun dialogue, et pourtant on entend vraiment la scène. Donc il y a ces deux types. Dans cette opposition, j'ai trouvé vraiment très intéressante, mutisme et silence. Et d'un autre côté, je me demandais si on ne pouvait pas aussi parler quelque part de silence visuel pour ces pages noires, en fait. Des pages noires, une sorte de silence visuel, oui, sans image, sans rien. Et donc, transposer un peu la notion de silence à ce qu'on voit, puisqu'on est dans le cadre de la bande dessinée. Donc, vraiment, le silence exploité dans plusieurs dimensions.
Merci pour la. Je pense que c'était une remarque plutôt qu'une question. Et moi, ce que j'avais trouvé, en fait, ça m'avait donné l'idée de parler du silence sur ça, parce que c'est vrai que moi, j'avais. Ben, j'ai quand même lu maintenant beaucoup de bandes dessinées. Et c'est le début où on pense que ça a été mal imprimé, parce qu'on a quand même trois pages noires qui nous disent rien. Et après, je vous lis sur une page double noire, il y a juste écrit Durante quanto tiempo no existe Antonia? La phrase d'après, la page d'après est tout à fait noire, et après, et on est une existence. Donc, on va trouver en effet, ce silence, et qui est brisé par des petites phrases, et après, on aura déjà tout le récit qui va briser ce silence de la non-existence ou de la pré-existence. Et en effet, après, c'est noir. J'ai pas pu l'aborder, mais c'est noir qu'on retrouve au début. Bah, un peu se retrouver partout dans la bande dessinée, parce qu'il va y avoir des cases qui arrivent noires quand un personnage décède ou quand quelqu'un on l'utilise souvent quand quelqu'un perd conscience, mais ici, ce n'est pas le cas. C'est vraiment peut-être quand le personnage est en train de rêver ou pour faire une coupure entre un épisode et l'autre, pour enlever cette connexion entre un épisode et un autre, on va mettre des pages en noir, alors que c'est vraiment une stratégie toute nouvelle qu'il utilise, parce que dans les restes des bandes dessinées qu'il a faites, ce n'était pas du tout le cas. C'était vraiment un récit complet avec un fil conducteur sans noir. Je ne sais pas si quelqu'un le connaisse, mais l'autre bande dessinée qui est très célèbre de lui, Los Surcos de la Sal, il n'y a aucun noir. Donc, pas du tout. Donc ici, c'était vraiment ces noirs que moi, j'interprète comme le tout et le néant, donc cette ambiguïté, mais que sûrement, il aurait plus des choses à dire, on aurait plus des choses à dire et à l'étudier un peu plus en profondeur. Merci beaucoup.
D'abord, je voulais vous remercier toutes les deux. J'ai trouvé que c'était très intéressant, très riche, et j'ai trouvé ça super intéressant, le fait qu'en fait le silence n'était pas seulement un bruit, mais c'était toute une esthétique, c'était des couleurs, c'était voilà, ce lien aussi avec l'intermédialité. Et ma première question, c'était d'abord de savoir si, au-delà de l'histoire personnelle, de la mémoire familiale, qu'il y avait aussi au cours de cette réflexion de la BD, une réflexion sur la construction de l'histoire en tant qu'historiographie. Par exemple, je pense à la photographie qui apparaît comme matériau du réel, finalement. Est-ce que voilà, ça posait aussi la réflexion de comment les historiens travaillent avec leurs sources, et que finalement, on fait parler des objets, des photos, et c'est toujours une reconstruction, finalement. Je me demandais voilà, s'il y avait cette réflexion-là. Et ensuite, par rapport à l'intermédialité, je me demandais si le fait qu'il y ait un va-et-vient entre la photographie, la bande dessinée, et ce jeu un peu entre le réel et la fiction, ça a posé aussi la question du genre, finalement. Est-ce que pour sortir du silence, il fallait aussi quelque part sortir des codes traditionnels de la narration? J'ai beaucoup aimé la dernière diapositive, je crois, que tu as montré, où justement la dame sortait de la bulle et sortait en quelque sorte du récit. Voilà, ça m'a fait penser à cette question-là.
Alors, je vais répondre à cette question. Donc, la première, c'était quel est le rôle peut-être de l'historien et quelles sont les recherches et comment s'inclut l'histoire. Donc, en fait, cette bande dessinée arrive comme peut-être la troisième, une sorte de trilogie que maintenant il appelle la trilogie de la mémoire, qui a commencé par une œuvre très célèbre qui s'appelle Arrugas. Après, il y a Los Surcos de la Sal, et celui-ci est le troisième, et c'est la première fois qu'il touche la mémoire familiale et qu'il s'octroie le droit d'être vraiment pas présente. Donc, il s'est auto-représente, mais on va le voir juste à quatre reprises. Il ne prend pas la parole. Il ne fait que chercher la photographie de sa mère parce qu'elle a changé de domicile et elle est triste depuis des mois parce qu'il manque cette photo, mais personne ne sait quelle photo c'est. Donc, c'est le seul moment où on va le voir. Par contre, et c'est intéressant de le comparer avec l'œuvre d'avant, où lui, c'est un des personnages principaux, donc il s'auto-représente en tant que dessinateur qui va voir un ancien combattant des républicains espagnols qui ont combattu dans la Deuxième Guerre mondiale du côté de la France. Et là, on va voir, et c'est très récurrent dans les romans graphiques mémoriels, de se mettre en scène en faisant des recherches, en posant des questions, voici comment ça a été lu, est-ce que c'est vrai, et en disant, je me suis fait aider par quelqu'un. Donc, dès le début, on a l'information sur un petit carnet, comme si c'était vraiment un chercheur qui a pris des petites notes et qui dit, comme m'a dit Bob, donc c'est vraiment comme l'a dit l'historien Robert Cole, qui après, à la fin de l'œuvre, va faire un commentaire. Ce qui est très intéressant, c'est que quand cette œuvre a été publiée en 2012, et ça parlait de ce personnage, Miguel, qui a changé de nom, qui a croisé la frontière, et donc, que soi-disant le dessinateur retrouve, lui pose des questions, il entend son histoire, son récit de vie. Et la chose la plus intéressante, c'est que le dessinateur, après, a reçu une lettre de la famille de ces personnes en disant, vous avez eu contact avec mon grand-père, on aimerait savoir où il est. Et donc, il dit, je suis désolée, mais je suis partie d'un fait réel, c'est que cet homme a existé. Après, on ne savait plus où il a été, et donc j'ai inventé la suite. Donc, pour voir que vraiment la ligne entre réalité-fiction et le travail de l'historien et le travail d'un romancier graphique, parfois, sont à la limite et on n'arrive pas à les distinguer. Donc, je pense que c'est intéressant de voir ce point de vue depuis les deux œuvres qui font écho. Et sur le genre, en effet, je pense que ça a déjà été, la guerre civile a eu quand même un grand essor dans le roman et après dans le cinéma. Mais à partir du début des années 2000, quand on avait déjà eu accès à tous ces romans mémoriels, on commence à voir la bande dessinée qui s'approprie aussi de cette thématique d'un point de vue différent, puisque, et je n'ai pas pu trop m'attarder dessus, mais le narrateur en bande dessinée est divisé en trois instances. Donc, on a le narrateur qui est l'instance principale, mais après, il y a le récitant et le monstrateur. Donc, le récitant, c'est tout celui qui a l'énoncé textuel et le monstrateur, l'énoncé visuel, graphique. Donc, ces bandes dessinées, je trouve que ça sert à sortir des codes traditionnels et pouvoir opposer histoire et mémoire dans le sens de l'histoire va peut-être passer, mais pas que, passer par les textes. Et le monstrateur va pouvoir utiliser la mémoire, donc l'imagination, qui n'est pas seulement invention et fictionnalisation, mais aussi la mise en image de quelque chose qui s'est passé. Et je pense que là, la bande dessinée a vraiment quelque chose à dire. Et pour juste compléter notre question, dans cette bande dessinée, il y a la photographie, mais après, les restes d'images n'ont pas un support historique dans le sens de il y a une autre photo qui a été adaptée. Alors que dans Los Surcos de la Falle, on voit vraiment des images célèbres de la Deuxième Guerre mondiale et surtout de la libération de Paris qui se retrouvent dessinées en bande dessinée. C'est ça qui crée tout l'écho des réalités, alors que c'est de la fiction ce qu'il nous montre. Et cette bande dessinée, celle-ci d'aujourd'hui, Regresa à l'Eden, est vraiment basée sur des vrais souvenirs. Et pourtant, on n'a pas eu besoin, ou il n'a pas trouvé le besoin de montrer d'autres sources que les trois photographies qu'il y a de sa famille. J'espère avoir répondu à tes questions.
Oui, merci beaucoup. C'est très intéressant.